le peuple au Tchad, il y a ceux qui sont des nomades et des semi-nomades. Il y a des grands nomades qui peuvent aller au-delà des 1000 km et dont le gun est brut, qui est l'herbe verte, et qui font cette transhumance pendant une saison jusqu'à aller au Niger et jusqu'à repartir dans le fleuve Congo. Le deuxième groupe, c'est les nomades jusqu'à 700 km qui peuvent quitter le centre du Tchad en allant jusqu'en Centrafrique. Et nous avons des semi-nomades, c'est ceux qui ont perdu la plupart de leurs bœufs, qui campent autour d'un village. Mais pendant la saison sèche, il y a un groupe d'hommes et des fois avec juste des femmes qui peuvent aller pendant une transhumance de 6 à 9 mois, à peu près de 10 à 100 km et qui reviennent pendant la saison des pluies dans les communautés.
Quelles sont les menaces qui pèsent sur ce mode de vie?
Si un groupe de communauté il quitte pour transiner d'un endroit à un autre, on a besoin d'une zone de stationnement. Là où on passe, on laisse les bouses des vaches qui fertilisent les terres. Quand on part, il y a d'autres communautés qui viennent s'installer au bord de notre chemin et à notre retour, on trouve les terres déjà occupées par l'agriculture ou bien par une communauté qui s'est mise là. Ça fait des conflits parce qu'on a besoin de ces endroits habituels pour passer ainsi que pour accéder à l'eau. Mais il y a aussi les menaces pour l'accès aux ressources naturelles, vu aussi la dégradation environnementale et les changements climatiques. Du coup, les communautés doivent se battre pour accéder à ces ressources ou bien ils doivent payer d'autres communautés ou payer les autorités de l'État pour accéder. Et là, ça devient une violation des droits des communautés.
Quelle est la particularité d'être une femme peule au Tchad?
Alors, être une femme, c'est aussi d'être la gardienne de la tradition, la gardienne de l'identité communautaire, de la culture, celle qui nourrit toute la famille. Ça rend la vie des femmes plus compliquée, car elles doivent doubler leur travail. Ça la rend aussi vulnérable parce que pendant les saisons sèches, la plupart des hommes ils quittent les communautés pour aller dans des villes à la recherche de travail. Entre 6 et 9 mois, elles doivent jouer les rôles de femmes, les rôles de l'homme qui n'est pas là et puis les rôles de la sécurité de toute la communauté.
Comment les autochtones tchadiens sont considérés par le gouvernement?
Par le gouvernement, il n'y a pas une reconnaissance officielle, une loi ou un texte qui dit vous, tel peuple, vous êtes autochtone ou pas. Dans ma communauté, il y a des enfants, il y a des femmes qui vont mourir, des hommes qui vont mourir sans avoir connu, possédant ne serait-ce qu'un acte de naissance qui peut reconnaître qu'il appartient à un État. On est apatrique et alors on ne peut pas parler de l'accès à l'éducation, ni l'accès à la santé et ni l'accès à l'eau potable. Ça, quand même, c'est la responsabilité du gouvernement.
Et au niveau international, est-ce qu'il y a des avancées qui permettraient de régler cette situation au Tchad?
Il y a quelques avancées. On a eu quand même 5 références dans l'accord de Paris qui reconnaît les droits des peuples autochtones est très important dans la protection de l'environnement, qui reconnaît que les connaissances et savoirs des peuples autochtones étaient un atout pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Ça, c'est des avancées au niveau international. Donc, les mettre en application au niveau local et communautaire.